Voici le journal de Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour à tous. Il était l'un des 177 braves du commando Kieffer. Hubert Faure est mort à l'âge de 106 ans. L'un des derniers survivants à avoir participé au D-Day, le débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Dans le journal également, direction l'Assemblée nationale qui a adopté hier la création d'un délit d'écocide censé renforcer l'arsenal juridique contre les atteintes à l'environnement. Oui, mais la mesure n'est pas jugée suffisante par tout le monde. Et puis, voilà 3 semaines que l'Ever Given a cessé de bloquer le passage sur le canal de Suez. Alors ça ne veut pas dire qu'il a pu reprendre le large. Les autorités égyptiennes l'ont saisi et demandent au navire de payer l'addition. Tresse, allez-vous l'entendre.
Les invités de la matinale, dans 20 minutes, Patricia Martin, qui recevrez-vous?
Flora Gebali, elle est entrepreneure militante, fondatrice de l'agence Coalition et auteure de Ma Génération va changer le monde. C'est un livre publié par les éditions de l'Aube.
Et à partir de 8h20, 2 invités. Philippe Collin, pour sa série de podcasts intitulée Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais, et Nathalie Petitot, professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Avignon.
France Inter.
Le ministère des Armées salue un héros de la France libre, Hubert Faure, est mort, il avait 106 ans.
Il s'est éteint dans la nuit de vendredi à samedi, il était l'avant-dernier survivant du commando Kieffer, ces Français qui avaient débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Leçon d'histoire avec Valérie Dejean de France Bleu Périgord.
Vif et clair, à plus de 100 ans, Hubert Faure témoignait volontiers de son histoire d'homme courageux de la Deuxième Guerre mondiale. Né le 28 mai 1914 à Neuvic, il avait poursuivi ses études au lycée jésuite de Sarlat. Un an après la mort de son père en 1933, un poilu décédé des suites de la bataille de Verdun, il s'était engagé, avait rejoint les forces françaises libres en Angleterre en 1943 avec le commando Kieffer, fort de 177 hommes. Il faisait donc partie des rares Français ayant débarqué le 6 juin. Il en parlait volontiers, comme ce jour dont se souvient l'ancien maire de Neuvic, François Roussel, devant des écoliers.
Et les enfants avaient posé des questions comme seuls les enfants savaient en poser. Simplicité, beaucoup d'émotion, mais vous n'aviez pas peur, parce que finalement les images du débarquement, c'est terrible. C'est bombardement, c'est les mitrailleuses, c'est les copains qui tombent au sol, c'est la manche qui est déjà rouge de sang. Et Hubert Faure dit non, quand on vient libérer son pays, on n'a pas peur. Voilà, c'est des choses qui sont assez bouleversantes. Et voilà, je suis triste parce que j'ai appris son décès.
Il y a désormais une rue qui porte le nom d'Hubert Faure à Neuvic-sur-Lille. Ce héros périgourdin du débarquement fait grand croix de la Légion d'honneur en 2020.
À Valérie Dejean, il ne reste plus qu'un seul survivant du commando Kieffer, Léon Gauthier, âgé de 98 ans. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation est repassé sous la barre des 5900 hier. C'est Santé Publique France qui l'annonce dans ses derniers chiffres. Près de 36 000 nouveaux malades recensés, c'est beaucoup, c'est vrai, mais c'est moins que le bilan de samedi dernier. De quoi, peut-être, croire à la réouverture des terrasses et des musées. Ils seront les premiers à rouvrir, assure le gouvernement. Des musées qui rongent leurs freins, notamment celui de la Romanité à Nîmes. Il a hâte d'accueillir des visiteurs pour son exposition « Empereur romain mortel parmi les dieux ». Reportage de Lise Roseveille pour France Bleu Garloser.
Au-dessus des petites vitrines, 3 conservateurs s'activent. Ils nettoient, vérifient la position des pièces. Un bonheur pour Cécile Carrier.
Ah oui, ça fait du bien et ça donne de l'espoir. On a hâte qu'on puisse ouvrir parce qu'un musée sans visiteurs, c'est un endroit qui est mort. Et on a l'impression que même les objets sont tristes.
L'exposition prévue l'été dernier a été reportée. Alors il a fallu réorganiser la logistique, rédiger le catalogue. L'équipe n'a pas chômé.
On ne s'est pas arrêté depuis le 11 mai l'année dernière.
Jean-Marc Bresse, agent technique.
On en a profité aussi qu'il n'y avait pas de visiteurs pour nettoyer les collection qu'on avait en vitrine et qui était très, très poussiéreuse aussi, donc on en a profité.
Je pense qu'ils sont bien positionnés.
Manuela Lambert, commissaire de l'exposition, a notamment travaillé sur l'aménagement des espaces. Elle sait que la jauge sera forcément réduite.
Vous voyez, dans la Céno, au début, c'est vrai qu'on a un espace qui est très grand et après, on a des espaces plus intimistes. Donc effectivement, pour la circulation des personnes, il faudra le prendre en compte.
Dans le hall du musée, la signalétique est déjà là, mais il reste encore un petit peu de travail à Benoît Badiou, le chargé d'exploitation.
Les réserves de gel hydroalcoolique, les stylets, les masques. On est prêt à ouvrir en 48 heures, enfin dès qu'on peut, quoi, en fait. On espère qu'il y aura en tout cas beaucoup de monde.
Avant d'accueillir enfin le public, le musée recevra dès la semaine prochaine les premières œuvres prêtées par le Louvre.
Lise Roseveille, et j'ajoute que l'exposition sera accessible dès la réouverture des musées, et ce jusqu'au 19 septembre.
Le Conseil supérieur de la magistrature, à nouveau saisi, à la demande de Jean Castex dans l'affaire dite des fadettes.
Le Premier ministre s'interroge toujours sur le rôle qu'a joué le premier vice-procureur du parquet national financier, Patrice Samar, dans l'affaire des écoutes téléphoniques de Nicolas Sarkozy. Vendredi, le CSA CSM avait refusé de donner suite à la première demande du chef du gouvernement, affirmant que les faits décrits ne motivaient pas de poursuites disciplinaires. Les députés, eux, ont dit oui au délit d'écocide adopté lors de l'examen de la loi climat. Il prévoit de sanctionner la pollution intentionnelle des eaux, de l'air et des sols. Une mesure qui divisait dans l'hémicycle. Certains estiment qu'elle n'est pas suffisamment ambitieuse pour répondre aux attentes de la Convention citoyenne pour le climat. C'est le cas du député PS de la 5e circonscription de Seine-Maritime, Gérard Le Seul. Il s'exprimait à la tribune.
Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une définition du délit d'écocide qui ne permettrait peut-être même pas de poursuivre la destruction de forêts sur le territoire français. Cette mesure n'est pas à la hauteur des enjeux de ce siècle. Comment qualifier le scandale écologique et sanitaire du chlordécone ? De délit d'écocide, avec la reprise du concept d'écocide, le gouvernement entend faire sa communication, soit. Mais pour la justice environnementale, soyez ambitieux, chers collègues, faites un grand pas en avant ou refuser les abus de langage.
Voilà des éléments de langage pour Gérard Le Seul, mais pas selon Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Elle est plutôt satisfaite de la naissance de ce délit.
L'écocide, c'est pas forcément spectaculaire. Et c'est en ça, je crois, qu'il faut vraiment qu'on réagisse au niveau de notre droit français. L'écocide, c'est pas forcément juste la forêt amazonienne qui brûle. Quand on pollue une rivière et qu'on tue durablement son écosystème, c'est aussi une forme d'écocide. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas ne pas nous en emparer dans notre droit.
Et côté calendrier, sachez que le vote global du projet de loi climat aura lieu le 4 mai. Un mot maintenant de l'interview accordée par Marlène Schiappa dans les pages du journal du dimanche. La ministre déléguée à la citoyenneté annonce la tenue dès mardi des états généraux de la laïcité. Un sujet de passion, dit-elle, affirmant que la laïcité n'est pas une arme de répression contre les religions. Les bateaux circulent plutôt bien sur le canal de Suez, une image qui tranche, c'est vrai, après les 6 jours de paralysie fin mars. Souvenez-vous, l'Ever Given a bloqué le passage et avec lui une partie du commerce international. Le navire géant a été remis à flot voilà 3 semaines, mais lui n'a pas pu repartir. Et oui, saisi par les autorités égyptiennes qui contrôlent le canal. Pour être autorisé à partir, Martin Roux, eh bien, il pourrait bien devoir passer à la caisse.
À l'issue de 6 jours de blocage, les pertes pour l'Égypte en droit de passage sont évaluées à près de 80 millions d'euros. L'autorité du canal réclame pourtant près de 10 fois plus, 764 millions d'euros. Détail de cette addition douloureuse, 264 millions en raison des pertes de revenus, 250 millions pour couvrir les frais de sauvetage et plus surprenant, 250 millions encore cette fois-ci exigés pour les dommages faits à la réputation de ce couloir maritime. La société japonaise et sa filiale panaméenne propriétaire du navire sont priés de passer à la caisse, mais la bataille promet d'être longue, cette société a entamé une procédure pour imposer aux détenteurs des conteneurs toujours à bord de contribuer aux frais de sauvetage. Autre acteur de cette joute mondialisée, le transporteur taïwanais qui loue l'Ever Given étudie quant à lui la possibilité de charger les conteneurs sur un autre bateau. L'assureur du navire rejette en bloc ces compensations jugées infondées. Pour l'heure, l'Ever Given demeure immobilisé dans le grand lac à mer et avec lui les 25 membres d'équipage de nationalité indienne prisonnier de ce bras de fer à seulement une 50aine de kilomètres au nord du lieu de l'accident. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
Et puis en sport, ce sera la fin aujourd'hui à Lisbonne des championnats d'Europe de judo.
Et chez les hommes, on suivra Cyril Marais qui avait décroché le bronze au JO de Rio dans la catégorie des moins de 100 kilos. Sauf que depuis, eh bien, les choses n'ont vraiment pas été faciles pour le judoka victime d'un grave accident de la route en octobre dernier. 6 mois plus tard à peine, et s'il revenait à son plus haut niveau, et si même... Et s'il visait Tokyo, eh bien c'est le pari fou que nous raconte Stéphanie Mora.
Luxation de la hanche, ligaments arrachés, avant même d'avoir le diagnostic, Cyril Marais comprend, en rampant sur le bord de l'autoroute pour se mettre à l'abri, que sa chute en scooter est grave. À l'hôpital, l'un de ses chirurgiens, à peine sorti de sa chambre, ne donne pas cher de son avenir de judoka. Cyril Marais racontait la scène sur Canal Plus en février dernier.
Vous avez vu, c'est un sportif de haut niveau, médaille olympique, mais très lucide. Et il sait que sa carrière elle est terminée. Aujourd'hui, je peux pas y donner ni tort ni raison, mais en tout cas, 4 mois de ma luxation, je suis sur le tapis et je fais des randonnées.
Le Dijonais reprend l'entraînement avec des filles pour ne pas trop subir les impacts. Il alterne entre les longues séances de kiné et le dojo.
Je me remémore ça, puis je me dis, tu te rends compte le chemin qu'on a parcouru déjà en si peu de temps. On a enlevé les béquilles au 1er janvier,
On a franchi beaucoup d'étapes et avec autant de temps derrière, jusqu'à où on peut aller, quoi, c'est ça.
Jusqu'au Grand Slam d'Antalya en Turquie, première compétition, il y a 2 semaines à peine, où il perd dès le premier tour. Mais ce n'est pas grave, ni pour lui, ni pour ses coachs, qui lui laissent le temps de revenir. Cyril Marais était le chef de file des moins de 100 kilos en France, la catégorie juste en dessous de Teddy Riner. Aujourd'hui, il est moins bien placé que son copain Alexandre Edir pour aller au jeu. Mais à 33 ans et papa de 2 enfants, il veut tenter le coup, pour le plaisir de renouer avec la compétition, sans pression, et pour finir sa carrière sur une belle note.
Allez, on croise les doigts, début des phases éliminatoires à 11h, les finales ce sera à 17h.
C'était le journal de Gaëtan Plénet, le temps de ce dimanche.
La météo avec les meubles Gauthier, créateurs, designers et fabricants français de meubles pour toute la maison. À retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Alors oui, il y aura du soleil, mais pas pour tout le monde, Jean-Michel Golinski.
Ah, exactement, il sera plus franc ce soleil près de la Manche et sur la moitié ouest ainsi que sur l'Occitanie. En revanche, près des frontières de l'Est, des averses vont se mettre en place, notamment en seconde partie de journée du Grand Est à la Corse, avec de la neige à prévoir au-dessus de 1200 mètres et de l'orage en particulier sur la Provence. Entre les deux, des Ardennes au bassin parisien et du centre au massif central, du bleu matinal, le temps deviendra beaucoup plus variable en cours de journée. Sur une large moitié est, comme hier, il va faire entre 11 et 14 degrés, avec par exemple 11 à Besançon et Mulhouse, 12 à Dijon et Clermont-Ferrand, 13 à Lille et Ajaccio, 14 à Lyon, Paris et Marseille. Sur la partie ouest, les valeurs en hausse par rapport à hier vont afficher 15 degrés de la Bretagne au Pays de la Loire et 17 à 18 sur la Nouvelle-Aquitaine et sur l'Occitanie.
Jean-Michel Golinski, Météo France.